Bonjour à toutes et à tous. L'invité de cet aréopage est un pasteur dont la mission actuelle est de présider le conseil de la région Cévennes-Languedoc-Roussillon de l'Église protestante unie de France. Je reçois dans les studios de FM+, Monsieur Jean-Pierre Julian, qui publie, aux éditions Passiflore, un opuscule de 87 pages qu'il intitule « Une juste relation ». Pour une juste relation avec Dieu, la création, le prochain et soi-même. Bonjour Jean-Pierre Julian.
Bonjour.
Jean-Pierre Julian, vous présentez ce livre comme une méditation qui s'appuie sur trois textes bibliques que vous faites résonner entre eux. Mmh. Un texte extrait de la Genèse et deux textes extraits de l'Évangile, l'un de Marc et le second de Luc. Ces textes, vous les faites résonner entre eux, d'abord le texte de la Genèse avec l'Évangile de Luc, puis Genèse et l'Évangile de Marc. Alors, peut-être nous pourrions identifier ces textes d'une façon un peu plus précise et pourquoi vous avez choisi cela. On détaillera ensuite, mais peut-être on pourrait les situer un petit peu dans ce grand livre qu'est la Bible.
Alors, la Genèse, c'est parce que c'est un peu l'ouverture d'une parole qui s'adresse à une humanité. Et l'intérêt de ce récit de la Genèse, c'est que ça pose un cadre. Et après, ça donne libre cours à toutes sortes d'interprétations. Et puis, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma réflexion, il est apparu que le récit de la tentation ou épreuve qu'a subi le Christ était un écho à ce deuxième récit de la Genèse, lorsque Adam et Ève ont été tentés par le fameux serpent. Et je trouvais que ces deux textes se répondaient très bien, et ça m'a encouragé à réfléchir davantage sur l'articulation des deux textes.
Et ce premier lien, cette première articulation que vous posez entre ces deux textes, c'est celui de la parole.
Oui.
C'est la parole.
Oui. Oui. Il me semble intéressant de bien comprendre que dans la religion chrétienne, et notamment dans l'expression de foi protestante, la parole joue un rôle essentiel. Parole de Dieu, parole d'homme, parole de communauté, mais une parole toujours à interpréter et à comprendre et à recevoir. Et c'est ça qui est intéressant. Une parole peut devenir inspirée, et souvent elle devient inspirée sans qu'on s'en rende compte. Et on a la prétention de croire, en tout cas nous les protestants, que cette Bible peut être inspirée par Dieu et elle peut nous rejoindre dans notre quotidien.
Alors, lorsque vous évoquez cette parole, vous vous adressez au lecteur en le tutoyant d'ailleurs, et vous nous dites « Comme le premier homme, vas-tu accepter de donner à ta parole un autre statut que celui conféré par Dieu à l'origine ? Ou bien, vas-tu laisser à ta parole sa véritable place, son véritable statut, celui que Dieu a donné dès le commencement ?» Alors évidemment, la réponse est un peu dans la question, vous nous incitez à faire un choix, mais quel type de parole Dieu demande-t-il ?
Une parole pleinement humaine qui accepte sa fragilité, qui accepte ses limites, qui ne croit pas qu'elle peut tout expliquer et tout dire. Pas une parole toute puissante, mais une parole frêle, légère, créative.
Et pourtant, vous nous dites rapidement que de ne pas être à l'écoute de cette parole, c'est être à l'écoute de la sienne propre.
Oui.
Et pourtant, celle-ci, dans sa fragilité, développe l'orgueil et l'oubli de ses propres fautes.
Oui.
Voilà, donc c'est quand même compliqué ce que vous demandez là.
Oui, c'est-à-dire que c'est prendre conscience qu'il y a une autre parole qui nous fonde et que c'est cette parole qui est fondatrice en quelque sorte, qui nous permet de retrouver notre juste place et notre juste parole devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et alors bien sûr, ce petit livret s'adresse à des croyants. C'est, à mon avis, c'est plus un catéchisme d'adulte que je propose qu'une simple ouverture à la foi chrétienne. Prendre conscience que notre parole, on pourrait dire, est structurée par la parole de Dieu, c'est prendre conscience qu'on a une véritable, place à trouver dans notre relation avec Dieu et avec les autres.
Oui, mais alors cette parole de Dieu, comment est-ce que justement on y accède ?
Alors là, on n'accède pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire que...
Comment est-ce qu'on l'entend ?
Voilà, c'est plutôt ça. C'est qu'est-ce qui fait qu'un jour, lorsque par exemple vous êtes dans un culte, ou alors lorsque vous lisez la Bible, ou lorsque vous entendez une parole d'un être humain, qu'il soit croyant ou pas croyant, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup cette parole va vous toucher au plus intime de nous-mêmes ? J'ai cette conviction que Dieu peut nous rejoindre à travers la Bible, à travers un culte, à travers un témoin, qu'il soit croyant ou non croyant, et que la parole de cette personne, tout d'un coup, on peut l'entendre comme étant une parole de Dieu, c'est-à-dire qui nous rejoint dans notre intime et qui nous permet d'avancer dans la relation avec l'autre et avec Dieu.
Et on peut faire la différence entre cette parole et la nôtre?
Je pense. Parce qu'elle devient forte, intime conviction, elle renouvelle, elle ouvre d'autres horizons. C'est toujours une parole de vie qui ne fait que nous... qui nous encourage qu'à grandir dans la foi.
Alors là, on évoque Dieu, mais il y a aussi la question de la place du Christ, qui est très importante dans cette méditation, dans ce catéchisme pour adultes, comme vous l'avez qualifié. Vous nous dites, suivre les pas du Christ, c'est pratiquer l'humilité sans le savoir,
oui.
Et en faire le fondement de notre relation, encore une fois, à Dieu et avec notre prochain.
Oui.
Là, vous faites intervenir avec le Christ,
oui.
Notre prochain.
Oui. Oui, alors là aussi, c'est de l'ordre de la foi, c'est-à-dire que pour ma part, j'ai l'intime conviction que Christ est ressuscité des morts et que ce n'est pas un fantôme, ni une illusion, ni un symbole, que c'est une réalité. Et que, donc, on est sur les traces de quelqu'un et ce quelqu'un nous accompagne. Donc voilà, ça introduit la notion d'une présence insaisissable, invisible, qui nous accompagne.
Je vous propose, Jean-Pierre Julien, une première pause musicale, ou peut-être la seule pause musicale, ça va dépendre de notre relation, avec le nouvel album d'Eblis Alvarez, alias Meridian Brothers, et sa chanson « Donde estás María ». la musique des Meridian Brothers, Donde Estas Maria, vous êtes, chers auditeurs et auditrices, sur FM Plus 91 FM à Montpellier, à l'écoute de Jean-Pierre Julian, président du Conseil régional des Cévennes Languedoc-Roussillon de l'Église protestante unie. Nous échangeons, Monsieur Julian, autour de votre livre « Une juste relation » publié aux éditions Passiflore. Nous avons évoqué qu'il est question dans cette méditation de la parole, de l'écoute, du dialogue, de la place de la parole de Dieu vis-à-vis de notre de la nôtre. Vous vous appuyez sur le texte de la Genèse, fondateur de cette réflexion, en lien aussi avec les évangiles, notamment l'évangile, nous avons commencé par l'évangile de Luc. Vous avez commencé dans le livre par l'évangile de Luc, que nous n'avons pas complètement abordé. Il y a une deuxième thématique dans votre livre, c'est le sentiment de la peur que vous associez au sentiment de la finitude de l'homme, de ce que l'homme ressent de sa propre finitude. Et vous dites notamment « La question que le rédacteur du récit de Genèse 3 place dans la bouche de Dieu, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» révèle une humanité qui ne supporte pas de se savoir faillible. Et l'image que l'homme a de Dieu est désormais faussée. Alors comment est-ce que vous articulez tout ça? Comment est-ce que tout ça se met en place?
Il suffit d'observer nos enfants. Lorsqu'on observe nos enfants, lorsqu'ils ont fait une bêtise, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas moi, c'est ma sœur. Et ainsi de suite. Donc ça monte. Et nous, c'est pareil d'ailleurs. C'est-à-dire que pour reconnaître une bêtise, où on met du temps et des fois on ne le reconnaît jamais. Et puis c'est quelque chose de très compliqué dans notre humanité. D'accepter que notre image est à ce point blessée ou pas celle qu'on aimerait qu'elle soit. Voilà. Et donc ce mécanisme de la peur est très intéressant parce qu'il n'arrête pas de renvoyer à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. La force de l'évangile, me semble-t-il, c'est d'être capable de nous révéler ce mécanisme, de ne pas s'en inquiéter outre mesure, mais de l'assumer, tout simplement. Et peut-être de prendre plus conscience que nous sommes tous agités par d'innombrables peurs. Et on le voit actuellement avec la crise, avec tous ces attentats, ça joue sur notre façon de vivre, ça joue dans nos réactions, des fois on est agressif envers quelqu'un parce qu'on a peur, tout simplement.
Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas être parfait.
Exactement.
C'est de cet ordre-là,
exactement.
Cette peur-là.
Il y a une peur profonde, puis une peur aussi de ne plus exister, tout simplement. Et le récit de la Genèse est intéressant parce que pourquoi tout d'un coup Adam et Ève ont peur de la présence de Dieu alors que jusqu'à présent il n'y avait aucune peur, c'était une paix, etc. Donc c'est ça qui est, je trouve, intéressant dans le récit biblique, la naissance de cette peur. Voilà.
La thématique suivante que vous évoquez, c'est celle de la rencontre. Et là, vous faites intervenir, pour éclairer cet aspect-là, un récit de guérison dans l'évangile de Marc, qui est cette femme qui, dans la foi qu'elle a de Jésus, elle va guérir de ces pertes de sang. Et vous allez plus loin en disant que ces récits de guérison, en général, restaurent l'image de Dieu que nous avons en nous.
Oui. Oui.
Alors, en quoi ça consiste de restaurer l'image de Dieu?
Pour moi, c'est là où il y a un véritable enjeu théologique et spirituel. C'est-à-dire que de prendre conscience, comment dire, que Dieu veut une humanité belle. Belle, ça veut dire quoi? Ça veut dire une humanité qui développe sa créativité, qui assume ses désirs, et une humanité qui se réjouit de travailler avec les autres, n'est pas dans une logique de concurrence, de tout ce que développe actuellement nos sociétés actuelles, mais une humanité en lien avec les autres. Et je crois que c'est l'image que j'ai en tout cas de l'humanité à travers ces récits bibliques, qui est celle-là, une belle humanité.
Donc finalement, quand on parle de Dieu, on parle de l'homme.
Tout le temps, tout le temps, et surtout du Christ.
Et surtout du Christ.
Pour voilà, parce que bibliquement, le Christ est décrit comme étant l'image du Dieu invisible. Mmh. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, à travers la vie du Christ, à travers ses paroles, à travers tous ses actes, on découvre une certaine humanité. Et on voit que le Christ ne jugeait pas les gens, contestait toutes les idéologies qui maltraitaient l'humanité, qui enfermaient les hommes dans des prisons spirituelles ou autres. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est cette humanité-là qui, à mon avis, est intéressante à développer dans notre protestantisme.
Particulièrement chez les protestants ?
aussi chez les... Moi, je suis protestant, donc je vais plutôt parler voilà. des protestants. Mais après, je rappelle tout le temps que nous sommes des chrétiens d'expression protestante. Donc, c'est... Mais je ne veux pas parler à la place des autres.
Oui, oui. Alors, pourquoi est-ce que, justement, dans le christianisme, on n'a pas voulu... Il y a toujours, comme vous dites, ces fermetures, ces cloisons. Pourquoi est-ce que, justement, on n'a pas laissé libre cours à cette liberté intérieure que vous évoquez par ailleurs, d'ailleurs, à la fin de votre livre?
Oui, mais je pense que la liberté fait peur, tout simplement. Et dans le protestantisme, depuis très longtemps, on a développé cette idée d'être libre et responsable. C'est deux mots qui vont ensemble. On est libre et responsable. Si on n'est que libre, il y a une dimension qui manque. Si on n'est que responsable, il y a une dimension qui manque. Trop de responsabilité, ça entraîne une culpabilité sans fin. Et trop de liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est possible. Alors que pour reprendre une formule de l'apôtre Paul, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une grande liberté, mais après, ma liberté, dans quelle mesure elle va être pour le bien commun?
Et pourquoi accoler ce terme intérieur au mot liberté?
Alors là, je pense que la liberté est avant tout intérieure. C'est parce que j'ai une liberté intérieure que je peux déployer ma liberté pleinement à l'extérieur. Parce qu'il faut une liberté intérieure pour résister à des peurs qui nous envahissent. Parce qu'il faut une liberté intérieure pour résister actuellement à ces idéologies qui font beaucoup de dégâts sur « je vais être plus fort et que mon prochain, je vais être dans la concurrence permanente, etc. etc. » Il faut une liberté intérieure pour résister à ça, pour ne pas faire comme les autres.
Quand vous avez écrit ce livre que vous avez appelé « Méditation », est-ce qu'il était destiné à un public en particulier? Vous avez parlé de catéchisme, ou est-ce que c'était simplement une réflexion personnelle?
Alors c'est...
Comment ça s'est passé, ce cheminement?
Donc c'est une méditation qui dure depuis plus de 15 ans. C'est pour ça que j'appelle ça « méditation ». C'est-à-dire que si on le lit comme un roman, à mon avis, on passe à côté de beaucoup de choses. Il faut le lire tranquillement, revenir dessus, et puis approfondir les axes qui sont développés. C'est venu fortuitement, on m'a demandé un jour de faire une conférence, et puis pof, comme j'ai, voilà, avec les veilleurs, et puis voilà, c'est venu comme ça. Et puis, depuis que je suis pasteur, je fais quand même un constat que le protestantisme a perdu un petit peu, dans la grande majorité, le goût de la lecture biblique, et peut-être le goût de l'interprétation de la Bible. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être temps d'oser transmettre quelque chose, de se mettre un peu plus un peu plus à nu, parce qu'évidemment, j'ai des affirmations théologiques à travers tout ça. Je confesse Jésus Seigneur, crucifié, ressuscité des morts. Pour moi, ce n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité, c'est quelque chose de fondamental, même si aujourd'hui, on a du mal à annoncer cela et à dire clairement ce que l'on croit.
Est-ce que vous ne pensez pas que ce livre, même si vous le définissez comme un catéchisme, aura besoin quand même d'un petit peu d'accompagnement supplémentaire? C'est pas évident comme ça de rentrer dans cette réflexion-là, de faire ce parallèle entre le texte de la Genèse, choisir deux textes dans l'Évangile.
Oui et non. C'est-à-dire que là, parce que je me suis amusé à le distribuer à des personnes non-croyantes. Et ça se lit. Je pense que on peut avoir deux lectures, une lecture athée et une lecture croyante. La lecture athée n'ira pas jusqu'au bout parce qu'évidemment la dimension de la présence de Dieu ne parlera pas nécessairement, mais elle pourra éclairer sur des mécanismes intérieurs qui l'animent au plus intime d'elle-même. Alors après, bien sûr, il y aura peut-être besoin de l'accompagnement. Mais je m'adresse, à des gens qui réfléchissent sur la foi chrétienne.
Et puis, il s'agit aussi d'expérience.
Et oui.
Une forme...
Et oui, ce que je dis, je le vis.
Voilà.
Et c'est ça qui est intéressant aussi.
Bien, merci beaucoup, monsieur le président du conseil régional de la région Cévennes-Languedoc-Roussillon. Pour une juste relation, Jean-Pierre Julien, aux éditions Passiflore. Au revoir.
Au revoir.